OK, on va commencer notre 68e leçon dans notre série sur l'histoire de l'Église. Alors, la 68e leçon, c'était encore une fois l'Église émergente dans sa troisième partie. Donc, c'est un mouvement très dangereux. Alors, dans notre dernière leçon, on avait constaté que l'Église émergente se caractérisait par la volonté de rejoindre la population postmoderniste et plus particulièrement la jeunesse désillusionnée par le christianisme traditionnel. Alors, on sait que c'est un mouvement qui utilise fortement la technologie, les vidéos, les diapositives, les spectacles, Internet et bien d'autres moyens encore. Alors, son approche dans l'adoration est axée sur les sensations, les chandelles, les icônes, les sons, les odeurs, etc. Et c'est un mouvement aussi qui s'accorde fort bien de systèmes de croyances complètement contradictoires. Alors, il met l'emphase sur l'expérience et sur les sensations plutôt que sur les absolus. Il se concentre sur le développement des relations interpersonnelles plutôt que sur la proclamation de l'Évangile traditionnel. Il a tendance à mépriser tout ce qui est traditionnel dans l'adoration, que ce soit la musique d'église, la manière de s'asseoir et à peu près toute chose fait partie d'une église traditionnelle. Et c'est un mouvement qui place une sous-emphase sur les confessions de foi et sur les absolus. Il veut réévaluer la place des chrétiens dans la société, réexaminer les enseignements et les doctrines traditionnelles de la Bible et, en fin de compte, tout redéfinir. Alors, on va continuer la troisième partie de l'article de Richard Bennett, qui est un ex-prêtre catholique, mais qui est pasteur maintenant, qui a fait un excellent travail pour montrer qu'est-ce que c'est l'Église émergente. Alors, dans sa troisième partie, il commence par parler au lecteur. Il dit « Chers amis qui œuvrez pour la cause de l'Évangile, étant donné que l'Église émergente continue de toucher la France et d'autres nations francophones, il importe de démasquer ces enseignements pernicieux. Notre premier article montrait comment l'Église émergente fait la promotion du catholicisme. Le deuxième expliquait de quelle manière l'un de ses chefs de file, Brian McLaren, écarte l'Évangile et l'autorité de la Bible au profit du mysticisme. Ce troisième article montre comment Tony Jones, un autre leader du mouvement émergent, entraîne les jeunes et les responsables de mouvements de jeunesse dans le mysticisme oriental sous couvert de mysticisme catholique classique. Si vous en avez la possibilité, je vous demande de diffuser l'article ci-dessous ainsi que les deux premiers sur un site Internet. Et il signe bien à vous dans la grâce de notre précieux sauveur Richard Bennett. Alors, l'Église émergente et l'endoctrinement par le mysticisme oriental à la manière catholique. Dans un article de fond de l'hebdomadaire Newsweek, intitulé « La spiritualité en Amérique », donc c'était dans le numéro du 29 août au 5 septembre 2005, on lit « Les Américains veulent faire l'expérience de Dieu et goûter personnellement à l'extase ». Cet article montre que l'Amérique et une grande partie du monde occidental s'ouvrent de plus en plus au mysticisme. Un facteur important ici est la caution officielle accordée en 1965 à l'hindouisme et au bouddhisme par le Vatican. Alors, il disait « Ainsi, dans l'hindouisme, les hommes cherchent la libération des angoisses de notre condition » soit par les formes de la vie ascétique, soit par la méditation profonde, soit par le refuge en Dieu avec amour et confiance. Dans le bouddhisme, on enseigne une voie par laquelle les hommes, avec un cœur dévot et confiant, pourront soit acquérir l'état de libération parfaite, soit atteindre l'illumination suprême par leurs propres efforts ou par un secours venu d'en haut. L'Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ses religions. Et il y a une note, là, vous pouvez aller voir l'endroit où il a dit ça. Alors, le but et la nature du mysticisme catholique. 2 mois après la publication de cette énormité par laquelle le Vatican cautionnait le mysticisme païen, un autre document papal bien connu fit apparaître le cœur même de la politique catholique romaine. Et là, il cite encore une fois l'article. Le deuxième concile du Vatican veut exposer comment il envisage la présence et l'action de l'Église catholique romaine dans le monde d'aujourd'hui. Le monde qu'il a ainsi en vue est celui des hommes, de la famille humaine tout entière, avec l'univers au sein duquel elle vit. Voilà pourquoi, en proclamant la très noble vocation de l'homme et en affirmant qu'un germe divin est déposé en lui, ce Saint-Synode offre au genre humain la collaboration sincère de l'Église pour l'instauration d'une fraternité universelle qui réponde à cette vocation. Pour promouvoir à sa guise son action dans le monde, l'Église catholique propose un dialogue avec les hindous et les bouddhistes en mettant en avant leur concept, en particulier l'idée d'un germe divin qui serait déposé dans l'homme. Mais s'il y avait en l'homme un tel germe divin, l'humanité serait de la même essence que Dieu. Cette doctrine-là veut nier la transcendance absolue de Dieu et la dépravation totale de l'homme naturel, de l'homme non régénéré. C'est du panthéisme, ni plus ni moins. Le tout premier verset de la Bible déclare « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Peut-on affirmer plus clairement que Dieu est distinct de tout ce qu'il a créé? Dans sa parole, le Seigneur Dieu révèle qu'il est unique et qu'il est séparé de sa création. On ne peut en aucune manière confondre le Créateur et la création. Si aujourd'hui, cette déclaration panthéiste émanant du pape n'avait pas été reprise et remise sur le marché par certains évangéliques modernes, on aurait pu croire que ces paroles du Vatican étaient l'expression d'un écuménisme séducteur visant uniquement le paganisme oriental. Alors, la base véritable de la communion avec Dieu. La doctrine de la Trinité et l'Évangile sont la base de la communion avec Dieu. La communion avec lui comprend toute cette relation fondée sur la grâce et sur la foi, et c'est là le fondement de l'Évangile. Le chrétien jouit de la communion avec Dieu. C'est le Seigneur Dieu qui prend l'initiative de cette communion et qui, à chaque étape, la contrôle entièrement. La doctrine de la Trinité est le fondement de la foi chrétienne et aussi de l'expérience chrétienne. La vie glorieuse de la divinité est à la base de la vie du chrétien. Les pages de l'Écriture nous font comprendre que le Père est à l'origine de tout le message du salut. C'est lui qui s'est choisi un peuple et qui a choisi son Fils pour racheter ce peuple au moyen de sa vie parfaite et de son sacrifice. L'Évangile et la vie chrétienne dépendent entièrement de la nature du Père, révélée en tant que Dieu d'amour. L'expérience chrétienne dépend entièrement du Christ Jésus. L'œuvre du Saint-Esprit dans l'expérience chrétienne consiste à communiquer et à faire connaître aux chrétiens l'amour du Père et la grâce du Fils. Le Saint-Esprit est le principe et la source de toute vie chrétienne authentique. Il est la source de la communion que nous avons avec Dieu dans cette vie. Il en a le contrôle. La communion avec Dieu, voilà l'incomparable privilège conféré par l'Évangile. Elle est fondée sur l'amour du Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit. À cause de sa nature pécheresse, nul homme n'a de communion avec Dieu. Comme il est dit dans Romains 8:8, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Dieu est lumière et nous sommes ténèbres. La lumière n'a pas de communion avec les ténèbres. Dieu est vie et nous sommes morts dans nos transgressions et dans nos péchés. Dans ces conditions, il n'y a pas d'accord possible entre lui et nous. Le don de la grâce est l'unique moyen d'accéder à la communion avec Dieu. Dieu ne communique jamais la grâce par une technique ou par une stratégie humaine. Il la communique seulement par le Seigneur, par le Christ Jésus. Là, nous touchons du doigt l'erreur fondamentale de cette conception moderne de la foi qui se veut adaptée aux personnes en recherche, ce que les anglophones appellent « seeker sensitive ». Il faut en effet être en Christ avant d'avoir, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Éphésiens chapitre 3, verset 12. Pour que des pécheurs entrent en communion avec le Dieu infiniment saint, il faut l'intervention directe du Christ Jésus. Une telle communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit est au cœur même du message du Nouveau Testament, comme le dit l'apôtre. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Alors, le prochain paragraphe est un syncrétisme mystique populaire à l'usage de la jeunesse. Tony Jones est le coordinateur national de l'organisation Emergent US, ainsi que le pasteur des jeunes à la Colonial Church d'Edina, au Minnesota. Il fait partie des orateurs habituels lors des conventions pour jeunes, qu'on appelle Youth Specialties National Youth Workers. Dans le créneau qui est le sien, on lui accorde suffisamment de considération pour lui avoir confié un séminaire lors de la Conférence nationale des pasteurs de Zondervan en février 2006. En quatrième page de couverture, dans son livre Soul Shaper, A Shaper Exploring Spirituality and Contemplative Practices in Youth Ministry, on lit « Cet ouvrage est assurément le manuel le plus complet pour qui veut étudier et mettre en œuvre les pratiques contemplatives à l'usage de vos adolescents et par-dessus tout, à l'usage de votre propre âme. Ce livre est spécifiquement conçu pour les pasteurs et les responsables de la jeunesse. Jones va jusqu'à recommander les œuvres complètes de Maître Eckhart, ce traité mystique mettant l'accent sur le fait que Dieu habite l'humanité. Cette remarque à elle seule devrait suffire à alerter tout vrai chrétien quant au panthéisme latent de Jones. Alors, ce n'est pas, il n'y a pas de témoignage au sujet du salut en Jésus-Christ. Ni dans l'un, ni dans l'autre des deux livres de Jones, pas plus dans Soul Shaper, Exploring Spirituality and Contemplative Practices in Youth Ministry, qui a publié en 2003, que dans The Sacred Way, Spiritual Practices for Everyday Life, on ne trouve de présentation de l'Évangile. Comme c'est le cas pour bien d'autres leaders de l'Église émergente, le témoignage de John n'est pas celui d'un pécheur convaincu de n'avoir rien à respirer de lui-même devant le Dieu très saint et venant à Christ au seul sauveur. Au contraire, le premier chapitre, En quête de Dieu, du deuxième ouvrage qui a été publié en 2005, montre que l'auteur tâtonne encore dans les ténèbres de l'incrédulité. Il dit par exemple, « Certains d'entre nous restons persuadés que constamment Dieu nous suit à la trace, nous poussant à vivre droitement et s'attendant à ce que nous lui adressions la parole de temps à autre. Chaque fois que je ne suis plus à côté de Dieu, si je puis m'exprimer ainsi, il ne passe guère de temps avant que je ne sente que Dieu me suit et que je suis incapable de le repousser. Pourtant, ce sentiment de la présence divine n'entraîne pas obligatoirement une vie spirituelle profonde. Je le sais parce que tout en ayant conscience de la présence de Dieu, j'ai passé le plus clair de ma vie à me demander ce que je devais faire à ce propos. Tel est le triste témoignage d'un homme qui n'est pas en Christ et qui, néanmoins, est l'un des leaders les plus en vue de l'Église émergente et qui rédige et diffuse des documents à l'usage des pasteurs de groupes de jeunes. De son éducation au sein d'une église protestante, il écrit « Ma vie religieuse pouvait se résumer en un seul mot, l'obligation. Comme on pouvait s'y attendre, il laisse tomber son programme de prière obligatoire, de lecture biblique et de culte personnel, mais il fut rempli de culpabilité. » Il dit « Une pensée m'est venue. Cela fait des millénaires que les gens cherchent à suivre Dieu. Peut-être qu'ici ou là, certains d'entre eux ont découvert des moyens d'entrer en contact avec Dieu, susceptibles d'aider les gens comme moi. La meilleure chose que je pouvais faire, c'était de passer mon trimestre de congé sabbatique à voyager pour étudier l'éventail des anciennes pratiques de prière et de dévotion. Au cours de ses voyages, il participa à des veillées de prière qui faisaient le tour du cadran et il se rendit à Dublin, en Irlande, pour y rencontrer un prêtre catholique. Alan McQuiggan, c'est dur à prononcer, ainsi que le personnel du Centre de communication des Jésuites. Il dévora les écrits des mystiques catholiques romains et eut des entretiens avec des protestants, des catholiques et des orthodoxes. Jamais il ne parle d'étudier la Bible de manière plus approfondie, ni de chercher quelles sont les grandes vérités de l'Écriture sainte. Sa quête fait penser à celle d'Ignace de Loyola. Fait significatif, Tony Jones recommande aux responsables de groupes de jeunes et aux jeunes d'étudier et de pratiquer les exercices spirituels du fondateur des Jésuites. Il ressort nettement de ses déclarations que l'obligation joue encore un rôle capital dans sa conception de la vie chrétienne. Il ressort tout aussi clairement que Tony Jones n'a aucune connaissance solide de Dieu, émanant de Dieu lui-même. Autrement dit, il ne connaît pas Dieu tel qu'il est révélé par son esprit au travers de la Bible. Jones, ne croyant pas fermement que seule la Bible donne la véritable connaissance de Dieu, Dieu lui-même demeure à ses yeux une vérité floue. Jones reste donc libre de définir son propre Dieu et de s'acquitter de ses obligations envers ce Dieu de sa fabrication. En prenant pour critère de base des traditions romaines et grecques, il parvient à remplir ses obligations de façon apparemment acceptable, en accord avec une longue tradition. Il se livre à d'anciennes pratiques mystiques tirées pour la plupart du catholicisme romain. Et pourtant, devant le Dieu très saint, il est clair qu'il reste comme un étranger coupé de la grâce salvatrice qui est dans le Christ Jésus. Il convient de considérer attentivement sa définition du mot chrétien dans The Sacred Way. Il écrit « Pendant de longues années, on m'avait dit que pour être chrétien, il me fallait faire trois choses. Premièrement, lire la Bible. Deuxièmement, prier. Et troisièmement, aller à l'église. Mais j'avais fini par me rendre compte qu'il devait y avoir quelque chose de plus. Et c'est bien vrai. Parmi ceux qui ont suivi Jésus, on trouve une longue tradition de recherche, en fait une quête de moyens pour entrer en contact avec Dieu. Dans cette quête, ils ont cherché à mieux connaître Jésus, à le suivre de plus près, à se laisser mystérieusement envelopper de sa présence. Je remercie Dieu de ce que certaines de ces personnes brillantes et spirituelles ont mis par écrit ce qu'elles ont appris. Ce qui manque complètement dans la description que donne Jones des conditions pour suivre Jésus de plus près, c'est la conviction de péché et donc le besoin d'avoir un sauveur. En l'absence d'une conviction de péché, on n'a pas la vie dans le Christ Jésus. Le Seigneur déclare que le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Jean 16, verset 8. C'est l'œuvre du Saint-Esprit que de convaincre. Il accomplit cette œuvre avec efficacité et il est bien le seul à pouvoir ouvrir les pensées et le cœur d'un pécheur à la foi salvatrice. Apparemment, Jones n'a nulle conscience de cette vérité, car il ne dit rien du Seigneur Jésus en tant que sauveur et ne fait aucune mention du rôle du Saint-Esprit dans la communication de cette conviction. On ne peut donc pas dire que Jones suit le Seigneur Jésus-Christ au sens biblique, car son Dieu n'est pas le Dieu très saint de la Bible, et donc son Jésus n'est donc pas le Seigneur Jésus-Christ de la Bible. Alors, du zèle pour Dieu, mais sans connaissance. Jones dit bien, cependant, qu'à son sens, le chemin de la paix intérieure et le moyen d'être relié à notre Créateur passe par Jésus. Mais en même temps, il affirme que le but de ses pratiques est de me faire entrer dans une relation plus profonde avec le Dieu chrétien. Il préconise les pratiques mystiques, mais se déclare incapable de dire pourquoi il les trouve si utiles. Il ne sait pas pourquoi elles sont si efficaces, mais le fait est qu'elles le sont. Il déclare ensuite, « Je crois qu'elles sont efficaces à cause de Jésus. Je crains de ne pas pouvoir vous en dire davantage. Mais je le crois, c'est quelques réalités en rapport avec Jésus qui a inspiré les découvreurs de ces disciplines dans les siècles passés. C'est lui qui les a conduits au cours de leur quête qui, en fait, est de nature purement chrétienne. Seul le christianisme croit que l'unique Dieu véritable est venu sur la terre en tant qu'être humain et que même aujourd'hui, je peux le connaître de façon aussi personnelle que les disciples qui mangeaient avec lui il y a 2000 ans. Je veux dire que les chrétiens se livrent à ces pratiques spirituelles non par devoir ni par obligation, mais parce qu'une promesse s'attache à elles. Christ viendra personnellement à notre rencontre au moyen de ces disciplines. Quand on y pense, c'est fou. Certains saints qui recommandaient ces disciplines en sont arrivés à de telles extrémités que leurs contemporains les ont considérés comme des malades mentaux. Ils donnent l'exemple de saint François qui a prêché aux oiseaux de la forêt tout nu. La pratique chrétienne traditionnelle de ces disciplines mystiques a trait à un mode de vie et à une foi qui s'est affinée tout au long des siècles. C'est le moyen de vivre de la vie divine sacrée. Pour Jones et pour les mystiques catholiques et grecs, cela n'a aucun sens de parler de conviction de péché par le Saint-Esprit. Ils ne croient pas que Dieu en soit lui-même, se soit lui-même fait connaître par la Bible seule, ni que cette révélation puisse faire l'objet d'une formulation verbale. Il néglige cet appel que Dieu lance aux pécheurs. « Venez donc et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. » Ésaïe, chapitre 1, verset 18. Au lieu de mettre en action leurs pensées au sujet du péché et du besoin qu'a l'homme d'une justice parfaite en présence du Dieu saint, il cherche une rencontre subjective avec Dieu au moyen d'exercices spirituels. Ses pratiques les dispensent de toute réflexion vigoureuse sur la vérité biblique présentée dans la parole écrite. Quand elle survient, cette expérience d'union supposée avec Dieu procure un sentiment de plénitude spirituelle. Rechercher cette expérience subjective, qualifiée d'illumination, c'est tenter de remplacer le Seigneur Jésus-Christ par un produit de substitution. Les paroles de Jones que nous venons de citer équivalent à un reniement du Seigneur, rien de moins. L'homme déchu ne peut pas communiquer avec Dieu autrement que par Jésus-Christ, le seul médiateur, le seul chemin. Les paroles du Seigneur lui-même font voler en éclats, une fois pour toutes, l'expérience mystique subjective en tant que moyen d'accéder au Père. Dans Jean 14, 6, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Le Seigneur Jésus-Christ est la seule solution offerte par l'amour du Père pour le péché de tout homme, la seule qui comble son besoin d'une justice parfaite. Historiquement parlant, les pratiques spirituelles décrites par Jones sont issues du système monastique où elles ont prospéré. Ces exercices mystiques étaient inséparables des pratiques ascétiques si répandues en Égypte et en Orient. Ces pratiques sont sous-entendues par une philosophie selon laquelle le corps est le siège du mal. Dans cette optique, il faut donc en premier lieu mortifier le corps tout en pratiquant les rites spirituels censés permettre à l'homme de rencontrer Dieu. Alors les apostasies d'autrefois reprennent vie. Dans Soul Shaper, Tony Jones préconise 16 outils spirituels ou disciplines d'hier et de demain. Par exemple, la prière de Jésus, la Lectio Divina, le silence et la solitude, les stations de la croix, la prière de concentration, l'examen selon Ignace de Loyola et le labyrinthe. Partant du principe que tout clivage entre catholiques et évangéliques à propos de l'Évangile appartient au passé, Jones présente sa conception postmoderne du ministère auprès des jeunes. Il emprunte divers éléments au christianisme évangélique, au catholicisme et à l'orthodoxie, et il les mêle à des pratiques religieuses orientales tirées du bouddhisme et de l'hindouisme. Auprès des mouvements de jeunesse et des responsables de groupes de jeunes, Tony Jones joue un rôle particulièrement dangereux, préconisant d'obscures pratiques hérétiques empruntées à la Rome papale. À un public qui ne se doute de rien, il donne l'impression d'avoir découvert un trésor spirituel caché pour le plus grand bien de la chrétienté postmoderne. Son objectif principal est de présenter ses conceptions très catholiques, voyant en elles le passé revenu à la vie pour notre époque. Là, les chrétiens fidèles à la Bible doivent se montrer d'autant plus vigilants que Tony Jones s'adresse à des auditeurs particulièrement jeunes. Il y a péril, car la plupart des responsables de groupes de jeunes connaissent bien peu l'histoire de l'Église chrétienne et ne voient donc pas qu'on les entraîne dans un marché de dupes. De plus, les pasteurs des principaux courants évangéliques apprennent ces mêmes pratiques dans des rassemblements comme la Conférence nationale des pasteurs de 2006 organisée par les éditions Zone de Van. Hélas, Tony Jones égare les pasteurs et les jeunes en écrivant que depuis deux millénaires, les saints de l'Église chrétienne sont à l'œuvre, pratiquant et affinant ces disciplines. Il déclare aussi, « Il se peut que vous deviez renoncer dès la page de couverture à l'étroitesse d'esprit dénominationnel. Un grand nombre de ces pratiques vous sembleront particulièrement catholiques ou particulièrement orthodoxes. Si vous n'êtes pas issu de ces traditions-là, n'oubliez pas qu'avant 1054, nous étions tous catholiques et orthodoxes. En effet, tout au long du premier millénaire de l'histoire chrétienne, il n'y avait qu'une seule Église et la plupart des pratiques dont il est question dans ce livre remontent à cette période-là. Mais non, telle n'est pas l'histoire véritable du christianisme avant 1054. Jones a de toute évidence adopté la version de l'histoire qui a cours dans l'Église catholique romaine apostate. Comme par hasard, il oublie les Vaudois, les disciples de Valdo, les policiers, les Albigeois, les chrétiens d'Espagne et bien d'autres qui n'ont jamais, au cours des 11 premiers siècles, suivi les pratiques propagées constamment par la papauté depuis le haut Moyen Âge. Tony Jones a été profondément influencé par un mystique catholique, Thomas A. Kempis, qui a vécu entre 1380 et 1471. Tous les chapitres de Soul Shaper commencent par une citation de cet auteur. En fait, Jones écrit « Thomas A. Kempis fut notre guide tout au long de notre exploration de ses anciennes pratiques spirituelles. Par exemple, dans son « De l'imitation de Jésus-Christ », un livre que Thomas Kempis a écrit, Jones dit « Cet ouvrage contient énormément d'histoire et de théologie, mais l'histoire et la théologie qu'il présente sont fortement orientées dans le sens catholique romain. Les pages contenant les lectures recommandées par Jones, constitue un catalogue des mystiques les plus notoires et plus particulièrement des mystiques catholiques. Il encourage les responsables de la jeunesse à lire Ignace de Loyola, Catherine de Sienne, Henri Nouwen, Jean de la Croix, Thomas Merton, Thérèse de Lisieux et George Fox. Alors, c'est vraiment un syncrétisme mystique plus recherché, plus meurtrier. L'Évangile présente un message ouvert, simple et sans détour. En revanche, dans son livre « The Sacred Way, Spiritual Practices for Everyday Life », le message de Tony Jones est encore plus habile et plus dissimulé que dans son précédent ouvrage « Soul Shaper ». Dans « The Sacred Way », Jones préconise les exercices spirituels d'Ignace de Loyola et d'autres pratiques mystiques catholiques telles que le labyrinthe, la prière de concentration, les stations de la croix et la prière de Jésus. Au lieu de proclamer droitement l'évangile de la grâce qui conduit à la communion avec le Père, il offre un frauduleux produit de substitution, la méthode mystique catholique romaine. Il attire aussi ses lecteurs dans un trou noir spirituel. La mise en œuvre de la philosophie mystique de Tony Jones passe par le message humaniste d'Ignace de Loyola et par les techniques qu'enseigna ce dernier. Jones insiste sur la manière dont le fondateur des Jésuites utilisa la visualisation et les choix émanant de l'homme afin de vaincre le mal et de devenir ce qu'il veut être. Dans le chapitre 8 de Soul Shaper, l'examen selon Ignace, John déclare, « Dès le premier jour, en méditant sur l'incarnation et la nativité de Jésus, jusqu'à la dernière méditation, portant sur la semaine avant le dimanche des Rameaux, le retraitant imagine que Lucifer a déployé toutes ses troupes dans la même plaine, prêt à engager la bataille. Face à lui, Jésus et toute son armée se présentent pour le combattre. À la fin de cette semaine, selon Ignace, le retraitant est prêt à faire son élection, c'est-à-dire à choisir l'armée dont il veut faire partie et à choisir la personne qu'il veut être. Se situer de cette manière, c'est maintenant s'identifier à ce que le Seigneur appelle la chair. Ce qui est né de la chair est chair, par opposition à l'esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Au départ de ce qu'on veut faire passer pour le salut chrétien, il y aurait une élection accomplie par l'homme, l'homme choisissant sa propre destinée. On est là aux antipodes de ce que l'apôtre Paul appelle l'élection de la grâce. Si c'est une grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Romains chapitre 11, verset 6. Le salut et la communion avec Dieu sont le fait de son choix aimant et miséricordieux, c'est-à-dire de son élection. Il ne procède pas d'une manœuvre humaine, quelle qu'elle soit. John enseigne aussi des pratiques grossièrement idolâtres. Il fait la promotion des images interdites par le Seigneur. Il donne à penser que la sainte présence de Dieu est visible dans les icônes. Comme Brian McLaren, il fait connaître son point de vue en citant d'autres auteurs qui partagent ses idées, mais jamais il ne présente le point de vue biblique. Dans The Sacred Way, il cite une femme, membre de l'Église orthodoxe, qui déclare « La sobre présence du Seigneur dans une icône nous met mal à l'aise car elle nous donne de comprendre à quel point nous sommes loin de la beauté et de la puissance ineffable de Dieu. Le regard fixe et troublant du Seigneur dans une icône rappelle celui d'un chirurgien qui contemple le corps blessé et brisé d'un patient. Le chirurgien comprend ses blessures mieux que ne peut le faire le patient et il sait exactement quel remède il faut. Notre Seigneur voit en nous des échecs et des brisements que nous ne voyons pas, ne voulons pas voir, ne supporterions pas de voir. Et il nous invite à nous ouvrir à la guérison, à une guérison qui progressera tout doucement, très lentement, et que nous serons capables de supporter. Loin de dénoncer dans cette conception sentimentale de l'icône une contrefaçon de la conviction de péché que donne le Saint-Esprit au moyen de la parole de Dieu en vue de la repentance et du salut en Christ seul, Jones se sert de cette fantasmagorie pour inciter ses lecteurs à utiliser les icônes. Ensuite, il cherche à justifier l'idolâtrie en citant des légendes catholiques et en s'appuyant sur des auteurs catholiques modernes, car sans l'affirmer explicitement, il introduit son propre médiateur entre Dieu et les hommes sous la forme de l'icône. Il déclare « Les catholiques croient que le chrétien peut prier au travers des saints, surtout au travers de la bienheureuse Vierge Marie, et qu'alors leurs prières parviendront au trône de Dieu. En un mot, nous nous servons d'icône pour prier, mais nous prions au travers de l'icône. Nous n'adressons pas nos prières à l'icône. Puisque nous croyons que ceux qui sont morts dans la foi vivent maintenant dans l'éternité avec Dieu, prier au travers de l'icône d'un saint revient simplement à demander à l'un de ses amis de prier pour moi. » C'est très exactement de cette question que traite le chapitre 32 de l'Exode, dans lequel on voit Aaron fabriquer un veau d'or pour le faire servir au culte du Dieu très saint. Le peuple a supposé qu'il ne rendait pas de culte au veau, mais qu'il se servait de cette image pour rendre un culte au Dieu saint. Dans Exode 20, versets 4 à 5, Dieu interdit explicitement de fabriquer de telles images. Nous avons très grand besoin aujourd'hui de revenir à ce chapitre. Mais Tony Jones dit que nous sommes parvenus à l'époque postmoderne, ce qui signifie en fait une époque où l'Évangile est dépassé, justifiant l'usage des icônes par des légendes et des traditions catholiques, il donne le conseil suivant. Pour introduire la prière avec les icônes dans votre culte personnel, le premier pas consiste à vous procurer une icône. Il n'y a jamais d'ombre dans une icône, et le visage du sujet n'est jamais éclairé par une source lumineuse extérieure. C'est l'icône elle-même qui est source de lumière. Une icône ne sert pas à représenter un être humain normal, mais Jésus ou Marie ou un saint en tant que ressuscité. Ainsi, Tony Jones, après avoir tourné le dos à la conviction de péché que procure la prédication de la parole de Dieu, cautionne l'image que le Seigneur interdit en faisant croire qu'elle sera bienfaisante pour la vie spirituelle. Mais le Seigneur, lui, dit que ceux qui servent des images sont ceux qui le haïssent et qu'il châtiera leur iniquité jusqu'à la troisième et quatrième génération, voir Exode chapitre 20, versets 4 à 6. Dans la postface de l'un et l'autre de ses livres, dans les parties intitulées « Comment développer une règle de vie », Jones invite ses lecteurs à placer leur foi dans les exercices religieux. Suite à quelques expériences procurées par les pratiques séculaires que décrit ce livre, peut-être déciderez-vous d'incorporer certaines de ces disciplines dans votre règle de vie personnelle. Cela pourrait consister, par exemple, à prier 200 de prières de Jésus, matin et soir, chaque jour. Chaque semaine, vous pourriez observer le Shabbat depuis le coucher du soleil du vendredi jusqu'au coucher du soleil le samedi. Une fois par mois, vous pourriez parcourir un labyrinthe. Une fois par an, pourquoi ne pas faire une retraite et passer 2 jours dans le silence? Jeûnez et faites le chemin de croix tous les vendredis pendant le carême. Tous les 10 ans, faites une retraite de 28 jours pour pratiquer les exercices spirituels d'Ignace de Loyola. Une dernière platitude nous appelle à nous identifier à ce que nous ressentons. Il dit, dans nos ministères, de nombreuses options se présentent à nous, mais la discipline de vie, elle n'en est pas une. Je veux dire qu'il ne s'agit pas là d'une option, mais d'une obligation. Ralentissez, écoutez Dieu, faites silence, méditez, faites le chemin de croix, fixez du regard l'icône, et alors ne le ressentez-vous pas? cette lumière divine du Christ ressuscité qui vacillait au-dedans de vous, la voilà qui peu à peu devient un grand flamboiement. Devant de telles pratiques, la voix du Seigneur retentit au travers de sa parole comme un coup de tonnerre. Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos dénués de connaissance? Job 38, verset 2. En vérité, mieux vaudrait lire Alice au pays des merveilles. Ces idées de Jonah ne sont que des inventions humaines, elles ne procèdent nullement des révélations divines que contient la Bible. Ce sont d'arrogantes vanités issues de la tradition catholique romaine. Un tel homme s'adonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, Colossiens 2, 18. Ces pratiques catholiques traditionnelles que Jones recommande chaleureusement ont peut-être une apparence de spiritualité, mais tout au long des siècles jusqu'à nos jours, elles se sont avérées trompeuses et n'ont engendré que de l'orgueil et d'autres péchés. Dans la pratique, Jones nie que Christ soit le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Une des pires manières de dénigrer Jésus-Christ, c'est d'essayer d'introduire quelque autre médiateur entre Dieu et sa création, et c'est ce que Jones fait sans vergogne. Mais quand les hommes renoncent à reconnaître en Christ l'unique médiateur, ils sont pris au piège des traditions humaines et de la vaine spiritualité telle que le monde la conçoit. Jones en est lui-même une démonstration. Il donne l'impression que les exercices mystiques font merveille, en cautionnant le mysticisme, l'idolâtrie et les dévotions charnelles du catholicisme, il pourrait facilement ensorceler ceux qui le lisent et cherchent à pratiquer ses enseignements. Toutes ces reliques catholiques qui, selon Jones, conviennent à l'époque postmoderne, sont en contradiction absolue avec la vérité biblique. Le Seigneur commande aux chrétiens de renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5. Et il donne un paragraphe de conclusion. Être en communion avec Dieu, c'est avoir part à la vie éternelle par la grâce, par la foi. On n'accède pas à cette communion-là par l'imagination, par la visualisation, en s'isolant, ou en recourant à quelques formules mystiques. Les faux docteurs, tels que Tony Jones et Brian McLaren, ont tenté de supplanter l'Évangile, séduisant les multitudes par des doctrines qui peuvent conduire les âmes à la damnation éternelle. Le Christ Jésus, notre Seigneur, nous a avertis. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, verset 11. Aujourd'hui, le mouvement de l'Église émergente regorge de pratiques contemplatives séduisantes. C'est seulement en étant extrêmement attentif aux enseignements du Seigneur que les chrétiens pourront échapper à la destruction. Le grand danger dans les spiritualités comme celle de l'Église émergente, c'est de remplacer la parole écrite immuable par l'expérience subjective. Comme d'autres chefs de file de ce mouvement, John enseigne que par les pratiques spirituelles, l'homme peut devenir conscient de Dieu, mais il ne mentionne ni exigence morale, ni la nécessité d'obéir aux commandements divins. La manière véritable de s'approcher de Dieu consiste à mettre sa confiance dans la vie parfaite de Christ et de son sacrifice. Elle implique la repentance et le renoncement au péché. Si les évangéliques suivent l'enseignement de John, ils aboutiront inévitablement aux pratiques ascétiques et à l'immoralité, comme il ressort de l'histoire de l'Église et comme en peuvent témoigner ceux qui ont pratiqué ces choses. Le Christ Jésus proclame dans sa parole, « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Prenez garde à ce que vous entendez. » Marc chapitre 4, versets 23 et 24. Nous ne devons pas seulement rester fermement attachés à l'Évangile, le Seigneur nous commande aussi de prendre garde à ce que nous entendons. Pour lui demeurer fidèle, il faut être attentif à ce qui se passe autour de nous et, avec diligence, demeurer ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Philippiens 1, 27. Et je vous ai mis une petite, à la page 12, vous avez trois applications. Alors, la première application, rappelons-nous constamment les avertissements du Seigneur, Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. La deuxième application, attachons-nous très solidement aux saintes Écritures et non à l'expérience subjective pour éclairer notre chemin. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et troisièmement, troisième application, rejetons catégoriquement les enseignements des leaders de l'Église émergente concernant le mysticisme catholique et oriental. Comme l'apôtre Pierre, faisons-nous un devoir d'instruire nos frères et sœurs dans la foi et de les avertir des dangers qui les guettent. 2 Pierre, chapitre 1, verset 13. Et je crois qu'il est juste, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous réveiller par mes avertissements. Amen. Amen.